Leur CV avec Pascal CV.
Il n'y a rien à signaler sur les réseaux routiers comparativement à hier où ça a été une journée assez dramatique et tragique hein, avec l'accident sur Henri IV. Ça a mené un peu tout ce qu'on a connu dans la circulation au courant de la journée. Mais là, c'est beau, ça roule, c'est vert partout, c'est fluide. Avec le soleil aussi, c'est une belle journée pour faire de la route si jamais vous en avez à faire avec votre travail ou tout simplement dans votre vie quotidienne. Budget fédéral. Wow, on a jasé hier, je sais ce que vous allez dire. C'est quelque chose d'important, mais des fois qui ne vous touche pas nécessairement. Et là, d'autant plus que c'est un budget qu'on a qualifié de gauche. Donc, un petit peu plus dans les filets sociaux, un petit peu plus dans « on va aller chercher de l'argent là où on pense que c'est intéressant de le faire, soit auprès des mieux nantis. On va aller chercher plus d'impôts, on va aller taxer un peu plus de choses. On va essayer de... ramasser nos déboires économiques des dernières années dans les poches de certains contribuables et non dans des stratégies gouvernementales et politiques. Moi, c'est ce qui me fascine. C'est correct, c'est un exercice comme un autre. Le gouvernement qui est en place, c'est le gouvernement Trudeau. La ministre de l'économie, c'est Chrystia Freeland. Elle peut faire ce qu'elle souhaite. On l'a élue au Canada. Le hic étant, lorsqu'on prend position dans une affaire comme un budget fédéral pour un pays, il faut ficeler tout comme il faut. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de crack. Et si on vise les mieux nantis, certaines personnes qui ont plus d'argent dans la société, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de déboire, il n'y aura pas d'oubli et il n'y aura pas de choses qui vont tomber justement entre deux chaises. Hier, on en parlait de façon quand même assez superficielle de ces gens qui seront catégorisés comme mieux nantis parce qu'ils ont des avoirs particuliers, comme en immobilier, mais qui n'ont pas plus d'argent que d'autres. Vous avez vu peut-être le texte dans le Journal de Québec sortir aujourd'hui, mais on a trouvé certains protagonistes qui sont visés par tout ça, des gens qui ont un duplex, qui ont mis toutes leurs économies durant toute une vie et qui sont à l'aube de la retraite. Ils ont un fonds de pension de 28 000 $ en raison du budget fédéral maintenant parce que, ben justement, ils sont catégorisés comme étant les plus riches vu le nouvel impôt fédéral. Oh, là, ça, faut en jaser, parce que je pense qu'il y en a qui ont pris une sacrée débarque, je vais le dire comme ça. Et pour le faire, j'ai écouté énormément de commentateurs politiques et il y en a un qui a attiré mon attention hier. C'est sa première apparition dans leur CV. Il s'appelle Rodolphe Osni. Il est au bout du fil et c'est un ancien conseiller au gouvernement Harper. Bonjour, Rodolphe.
Bonjour, bonjour Québec.
Oui, bienvenue sur les ondes, effectivement, de la ville de Québec. Rodolphe, c'est quelque chose qui est venu te chercher énormément hier. Est-ce que c'est parce que tu es concerné par tout ça ou c'est parce que tout ce qui est valeur économique, aller chercher les bonnes cibles, ça tient à cœur depuis de nombreuses années puisque tu as travaillé au sein d'un gouvernement qui avait un petit peu plus d'économie comme priorité?
Oui, écoutez, non, ça ne me touche pas personnellement, mais moi, ça m'a... Écoute, j'ai été estomaqué quand j'ai vu ce budget, puis juste pour mettre en contexte, on est en train de dire à des gens qui ont fait des choix, c'est-à-dire qu'on paye des impôts, puis ensuite qu'ils sont bâtis une épargne. Puis avec cette épargne-là, ils ont décidé, par exemple, d'acheter un bloc appartement, un duplex ou quoi que ce soit, dire « ça, ça va être mon bas de laine parce que j'ai pas de fonds de pension, puis je vais le payer sur 20 ans ou sur 30 ans, et quand je serai le temps de prendre ma retraite, par exemple, ben, soit je vivrai des revenus de ça une fois que ce sera payé, ou peut-être je vais le vendre et ce sera avec ce capital-là que je vais faire ma retraite. Et là, dans le budget Freeland qui a été déposé mardi, on vient de dire que ces personnes-là qui ont fait le bon choix, qui ont joué par les règles, qui avec leurs économies ont investi, ils vont devoir payer plus. Mais le gouvernement a dit, on va taxer les riches, on va taxer les riches. Il y a deux commentaires que j'ai envie de faire sur ça. Premièrement, dire qu'on va taxer les riches, c'est une diversion. Ça veut dire, on dit ça, c'est comme le petit élément qui brille pour pas qu'on regarde que le gouvernement Trudeau est incapable de contrôler ses dépenses, que le gouvernement Trudeau dépense trop et qu'on ne regarde pas la dette et le déficit. Et ensuite, il dit, mais quoi, vous êtes contre qu'on taxe les riches? Puis quand on fouille un peu, on est en train de dire, mais attendez, là, une personne qui a acheté un bloc appartement il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui coûtait même pas 200 000 $ puis que maintenant, ça vaut 600, 700, 800, 1000 $ Pourquoi vous êtes en train de les taxer plus? Ils se sont juste protégés contre l'inflation. Ils l'ont payé petit à petit avec de l'argent après impôt. Et là, le gouvernement Trudeau va chercher de l'argent dans ses poches de ces personnes-là, comme l'article du Journal de Montréal aujourd'hui, un 20, 30 000 $ Mais ces personnes-là, ils ne sont pas riches. C'est juste qu'ils n'ont pas de fonds de pension et c'est leur bas de laine. Mm-hmm. Et ce qui me choque énormément, c'est qu'on ne peut pas comme ça changer les règles. Quand on va pour faire un investissement comme ça d'une vie, d'une certaine façon, puis qu'on le paye sur 10, 15, 20 ans, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, dans un budget, à la troisième, deuxième année d'un troisième mandat, dire comme ça, voici, on change les règles, vous devez payer plus, puis vous devez le faire, sinon vous, au mois de juin, les règles ont changé. C'est pas comme ça qu'on prend une décision d'une vie d'un gouvernement qui a simplement trop dépensé, puis que maintenant qui commence à dire, OK, où est-ce que je vais aller taxer, puis qui ose nous dire, oui, on taxe les riches, qu'on est en train de voir que ça ne concerne pas que les riches, bien au contraire.
J'ai tellement de questions, Rodolphe. C'est impressionnant quand même, cette mesure-là, pour plusieurs raisons. La première, lorsque tu fais un budget, tu analyses, tu parles avec des gens, tu as des experts autour de toi. Et là, de catégoriser comme ça ces gens-là de personnes riches, quand ce sont des gens qui ont décidé de faire juste autrement, de ne pas placer nécessairement des montants. Bien, peut-être que oui, mais quand même, ils ont décidé d'acheter en immobilier en se disant, bien, c'est une valeur qui est sûre à ce moment-ci, c'est quelque chose qui va encore être dans mes poches. Plus tard, lorsque je serai à la retraite ou je voudrais d'autres projets, je pourrais le vendre et je m'assurerai d'avoir fait un surplus monétaire intéressant. Le risque est là, le risque existe toujours. Là. Il peut se passer n'importe quoi puis on peut perdre cet investissement immobilier-là. Mais un risque qui provient, qui arrive du gouvernement et qui te ramasse financièrement comme ça, je me demande comment est-ce qu'on peut pas y avoir pensé. Comment est-ce que du côté du gouvernement Trudeau, de Chrystia Freeland, on peut avoir échappé ce genre d'histoire-là, ce genre de situation-là, où tout simplement d'individus-là qui ont choisi de faire leur fortune par eux-mêmes et non nécessairement par des placements X. Comment est-ce qu'on peut échapper ça?
Bien, écoute, c'est la réalité politique du gouvernement Trudeau qui, pour se maintenir au pouvoir, est obligé d'aller chercher le support du NPD. Et ce budget qui a été écrit, c'est pas un budget libéral, c'est un budget du NPD, puis on sait très bien que le NPD dit qu'ils veulent taxer les riches. Puis après, ça devient une sorte de marketing politique où on dit, ah, attendez, regardez, on va taxer les riches. Mais quand on creuse, on n'est pas en train de taxer les riches. Donc, ça veut dire peut-être que oui, il y a des personnes qui sont très riches puis qui ont fait ce genre d'investissement, mais comme on est en train de le découvrir, avec le filet, ils sont en train de prendre des gens, des autres personnes qui ne sont pas riches et qui vont maintenant devoir payer plus d'impôts. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement dit « Ah, c'est un budget d'équité générationnelle ». Donc, attendez un instant, là. Quelqu'un qui a économisé toute sa vie, puis que maintenant qu'il va partir à la retraite, puis qu'on lui dit « Tu dois payer plus », c'est ça de l'équité générationnelle? Et d'un autre côté, quand on dit « Attendez, ils font ça, pourquoi ?» Parce qu'ils ont dépensé 20-30 milliards de dollars, par exemple, on l'a vu là, des 2-3 dernières semaines. Justin Trudeau, tous les jours, a fait des annonces, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Puis là, maintenant, ben, on regarde comment payer. Mais quand on regarde la dette actuellement du Canada, il y a un chiffre dans ce budget-là qui fait trembler. C'est 54 milliards de dollars. C'est les frais d'intérêt de la carte de crédit du gouvernement du Canada. Et c'est en train de se dire, mais attendez, là, c'est pas de l'équité générationnelle quand, un, on va prendre de l'argent à des gens qui sont pas soi-disant si riches que ça, puis, deuxièmement, on est en train de laisser une dette massive et des frais d'intérêt massifs à la prochaine génération. Donc, le problème, c'est que le gouvernement essaye d'acheter des votes et essaye d'acheter le soutien du NPD pour se maintenir au pouvoir avec cette mesure que moi, je considère qu'il y a une diversion du marketing politique pour dire, regardez, vous êtes contre taxer les riches, mais la vérité qu'on voit tous les cas qui sont en train de sortir, ce n'est pas juste des riches, c'est juste des gens qui ont respecté les règles, qui ont payé leurs impôts, qui se sont fait un petit coussin, puis que là, maintenant, on leur dit, on va les piger dans vos poches.
On a fait ça différemment. Là-dedans, il y a des gens qui ont des petites entreprises, oui. Là-dedans, il y a des enseignants. Là-dedans, il y a des... on se parlait hors d'onde. Il y a des coiffeurs. Tu sais, il y a des gens qui ont décidé de mettre cet argent-là à d'autres endroits. Ça fait tellement réagir. Rodolphe, il y a des gens qui commencent à écrire aussi pendant la chronique par rapport à des gens en immobilier qui vont juste fractionner leur vente pour ne pas se faire avoir encore plus par le gouvernement, qui changent les règles en cours de route, qui sont surpris. On dit, le pire, c'est que ce sera encore plus facile pour certaines personnes vraiment riches de faire ça. Donc, la classe moyenne va peut-être encore payer en supplémentaire. Est-ce que tu crois de ton côté que ça va annuler l'effet on essaie d'épargner économiquement la classe moyenne en ce moment?
Oui, moi je crois, bon, premièrement, j'ai un grand doute sur le fait que le gouvernement dit qu'il va aller chercher 20 milliards de dollars avec cette mesure, exactement pour le point. Il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, il y a des gens qui vont payer des comptables, des avocats, puis etc., et faire 50 000 structures différentes pour essayer d'économiser de l'impôt. Mais la classe moyenne, là, les gens qui ont juste acheté un duplex, je les vois pas s'amuser à aller appeler PricewaterhouseCoopers ou Deloitte puis s'amuser à dépenser 10, 20, 30 000 $ pour s'amuser à faire une structure fiscale complexe pour aller économiser 20 000 ou 30 000 ou 40 000 $ Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que moi, j'ai des sérieux doutes à la capacité du gouvernement d'aller chercher plus d'argent pour les soi-disant riches, qui est leur objectif. Et en fait, on va juste pénaliser les gens qui ont joué par les règles. Moi, j'ai utilisé une analogie hier en disant c'est exactement la cigale et la fourmi. La fourmi, c'est les gens qui ont mis de l'argent de côté. Et la cigale, c'est Justin Trudeau qui dépense tout l'été. Puis maintenant, qui dit à la fourmi, « Ah, ben attends, c'est à toi de payer maintenant. » Puis moi, je trouve que c'est pas correct du tout. Et que comme on peut pas changer les règles du jeu d'un investissement, encore une fois, quand on achète un duplex ou quoi que ce soit, c'est 20 ans, 15 ans qu'on planifie. On planifie sa retraite. On dit aux jeunes aujourd'hui, « Planifiez votre retraite, commencez à épargner maintenant. » Comment ça se fait qu'on dit à des gens qui ont fait ça il y a 10, 15, 20 ans, « Allez, aujourd'hui, on change les règles du jeu parce qu'on est dans le trou, parce qu'on a trop dépensé. »
Puis on vous ramasse un 30 000 fiscalement parce qu'on a mal ficelé nos choses. Puis en plus, ce sera peut-être des personnes qu'on devrait aider socialement avec un filet social dans le futur parce qu'on va les avoir amputés il y a quelques années quand eux n'auraient pas été une charge pour l'État, là.
Oui, puis écoute, moi, à ce que je sache, la dernière élection, est-ce que quelqu'un a parlé de ça? Est-ce que c'était dans le programme du gouvernement libéral qu'on a voté à la dernière élection? Non. Ça veut dire qu'il y a aussi une question de légitimité en termes de c'est bien beau d'aller chercher l'appui du NPD, mais il faudrait réaliser que les Canadiens, ils n'ont pas voté pour que le NPD soit au pouvoir, à ce que je sache. Les gens, ils ont voté pour un gouvernement soi-disant libéral minoritaire. Ils n'ont pas voté à ce que je sache pour qu'on augmente le gain en capital. Donc, d'un côté, on se demande, mais c'est qui commande? C'est le NPD. Puis si on regarde le nombre de votes, ben, je suis désolé, c'est pas les libéraux, c'est pas le NPD qui est au pouvoir. Puis là, on est en train d'acheter des votes avec notre argent. C'est ça que c'est ça que je trouve qui est inacceptable. Surtout à comme ça, à 3 ans d'un mandat, d'un troisième mandat, allez, on tire un lapin du chapeau.
En terminant, Rodolphe, tu as travaillé comme conseiller sous le gouvernement Harper. Donc, clairement, on est capable de voir que, bon, dans la priorité de l'économie, tu en faisais partie. Ça a toujours été un gouvernement, du moins les conservateurs, reconnus pour ça. As-tu l'impression que ça s'effrite avec le temps? Parce que, bon, nouveau visage au fédéral, Pierre Poilievre qui est là, qui essaie un peu de faire sa business politique contre un Justin Trudeau, parce qu'après ça, je ne parlerai pas des autres partis. Il n'y a rien. On en parle de long en large ici à la radio avec les auditeurs depuis maintenant plus de 2 ans. Et ce qu'on a comme constat, c'est qu'on est un peu tous orphelins politiques parce que j'ai l'impression, et les auditeurs ont l'impression par leurs commentaires, que tous se ressemblent et se rassemblent. On va faire le clin d'œil justement aux libéraux et aux NPD dans les dernières années. Finalement, ça a aidé personne. Mais comment est-ce qu'on peut en être rendu où nous en sommes quand avant, les gens qui votaient, ou du moins les contribuables aussi, parce que ça ne veut pas dire que si tu es contribuable, tu as voté pour le parti qui est en place, avaient une meilleure, comment dire, adhésion à un parti, se sentaient mieux représentés, se sentaient moins mêlés par ce qu'on offrait au fédéral, et les valeurs politiques des partis étaient bien définies. Est-ce qu'on a perdu ça?
Ben, d'une certaine façon, oui, et d'une certaine façon, non. Ça veut dire, qu'on regarde du point de vue conservateur, je pense qu'on ne l'a jamais perdu. Ça veut dire le fait que l'équilibre budgétaire est important pour les conservateurs, ça l'était sous Stephen Harper, ça l'était, c'est le message également que Pierre Poilievre donne.
Mais sans réelle projection, sans réelle stratégie, du moins de Poilievre, là, moi, je ne vois pas vraiment.
Non, mais oui, mais parce qu'on ne connaît pas les chiffres, là, ça veut dire, là, tout d'un coup, comme ça, on sort 20 milliards de plus, ça veut dire, moi, je ne sais pas quand il va arriver à la fin de son mandat, Justin Trudeau. C'est très difficile pour un chef de l'opposition, que soit Pierre Poilievre ou un autre gouvernement, un autre parti, de se dire, mais attendez, là, il faudrait que je sache à la fin, ça va arriver jusqu'où, la dette? Parce que chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Le problème, c'est que avant là, l'équilibre budgétaire, ça existait chez les libéraux. Jean Chrétien a fait un équilibre budgétaire. Paul Martin, avant, ça existait, cette rigueur en termes de rigueur économique.
Pourquoi on s'en fout maintenant?
Mais on s'en fout parce que Justin Trudeau a changé l'identité du Parti libéral. Ça veut dire que le Parti libéral actuellement est devenu un parti libéral de gauche, ce qui n'était pas le cas avant. Et maintenant, c'est devenu un gouvernement libéral à la merci du NPD. C'est un gouvernement rouge-orange ou orange-rouge. Et c'est ça la différence. Avant, il n'y avait pas trop de différence en termes de fiscalité ou de budget entre les conservateurs et les libéraux en disant, écoutez, au bout d'un moment, là, la carte de crédit, elle est loadée, il va falloir qu'on regarde un équilibre budgétaire, tandis que Justin Trudeau a changé ça. Et c'est ça qui est drôle. Regarde, même en 2015, puis je reviens en arrière, en 2015, quand le NPD était sous Thomas Mulcair, il parlait aussi d'équilibre budgétaire, tandis que maintenant, bien évidemment, le NPD n'en parle plus, les libéraux n'en parlent plus du tout. Donc, je pense que c'est ça. Puis je comprends que les gens sont mêlés d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils se sont dit, mais ça, c'est pas l'identité du Parti libéral.
Puis du côté du provincial, on semble aussi avoir un laisser-aller du côté du déficit avec le budget de la Coalition Avenir Québec, la CAQ récemment. On a l'impression que c'est peut-être un pouls de population. Est-ce que c'est rendu des chiffres tellement gros pour tous et chacun qu'on ne s'y intéresse pas et donc le politique se dit, bah, on n'ira pas jouer là-dedans?
Oui, d'une certaine façon, oui. J'ai l'impression que collectivement, on prend la rigueur ou on prend juste l'équilibre budgétaire, mais à la fin de la journée, toi, moi, tout le monde, on est obligé de payer. Puis on sait que si on paye juste le minimum sur la carte de crédit, bien, ça va être longtemps pour la rembourser, la carte de crédit. Donc, je pense qu'à la fin, il faudrait avoir une certaine forme de gestion de bon père ou mère de famille, parce que l'État ne peut pas juste comme ça dépenser. Surtout, on parle d'équité générationnelle. Ben, ça va être quoi qu'on va laisser à la fois au Québec puis à la fois au Canada en termes de qu'est-ce qu'on va laisser comme legs à l'autre génération quand on a trop dépensé. Oui. Et c'est même pas des fois, à la fin, ça dérange pas de dépenser. Mais moi, je demande aux gens, est-ce que tu as l'impression que les services ont augmenté? Parce que, à ce que je sache, le gouvernement fédéral, il ne sait même pas faire un passeport. Puis, ils dépensent comme des fous. Donc, je me dis, il y a un petit problème quand même en termes de gestion.
Est-ce que c'est encore possible d'atteindre l'équilibre budgétaire tout en conservant des services, en subventionnant des programmes sociaux puis d'améliorer efficacement le tissu social en général?
Oui, moi, je pense que c'est possible quand on a les bonnes priorités et quand, par exemple, on n'augmente pas la fonction publique de 100 000 personnes à Ottawa, comme Justin Trudeau l'a fait, sans qu'on remarque qu'il y a une amélioration des services. C'est des choses comme ça. Écoute, tous les jours maintenant, quand on fait pas une application à Rivcan qui devait coûter 80 000 $ et qui coûte 60 millions de $, ben ça, c'est du gaspillage. C'est pas une question de couper dans les programmes ou quoi que ce soit, c'est juste de la mauvaise gestion.
Très intéressant. Merci beaucoup, Rodolphe Osny, commentateur politique et ex-conseiller au gouvernement Harper. C'est un bonheur de vous avoir eu sur nos ondes.
Merci, bonne journée.
Au plaisir. Ça fait tellement réagir. C'est intéressant d'avoir cet angle-là ce matin. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à apporter, mais vous avez fait rougir Twitch, vous avez fait rougir également les textos. Je vais en lire quelques-uns. Quelqu'un qui dit un truc que notre gouvernement pourrait faire, ce serait d'imposer les gros gains à la loterie. Je serais curieux de savoir comment on pourrait récupérer à ce niveau-là. Quelqu'un qui dit un des exemples d'investissement immobilier que j'ai lu dans les nouvelles, c'est que les couples allaient payer 28 000 $ de plus sur un investissement de 140 000 $ qu'ils vont vendre 750 000 $. Il va leur rester dans leur poche 582 000 $ au lieu de 610 000 $. C'est pas la fin du monde. Ça dépend. Si c'est ta seule... Ben en fait, c'est l'investissement que tu as choisi pour assurer ton futur et ta retraite. Oui, ça fait une bonne différence, le 100 000. Et maintenant, on dit... auparavant, je me rappelle, j'avais une conversation avec quelqu'un qui était dans... Je pense à 50... Non, à la soixantaine, à ce moment-là. Et puis, moi, j'avais début 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans. Puis, on me disait, au moins un demi-million de dollars, un million de dollars, si t'es capable d'avoir ça dans tes coffres pour ta retraite, tu seras en masse libre de faire tout ce que tu veux sans avoir de casse-tête, sans nécessairement avoir un rythme de vie effréné, là. Mais ça a changé. Pensez-y, vous gagnez un million de dollars demain, là, à la loterie, justement. Il y a une loterie, un gros montant à la fin de la semaine. Ça va vite, là. Ça va très, 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 très vite. 100 000 $, tu ne fais plus grand-chose avec ça. Là, vous allez dire, oui, tu peux t'acheter quelque chose. Ça fait une différence aussi dans le stress et autres, je comprends. Mais est-ce que tu peux t'épivarder? La réponse, c'est non. Donc, peut-être pour ces gens-là qui ont choisi l'immobilier comme assurance pour la suite et que là, un gouvernement arrive avec des mesures fiscales de ce type-là et change complètement la donne, bien... Ça va jouer. Pensez-y à des gens qui ont économisé toute leur vie, qui leur reste 10 ans finalement pour économiser. C'est rien 10 ans pour économiser. De votre vingtaine à votre trentaine, avez-vous assez mis d'argent de côté? En avez-vous encore assez de côté? Est-ce que vous avez été capable de prendre un devant là-dessus? Pas certaine, parce que justement, les années vont vite. mais les dépenses aussi. Quelqu'un qui dit, de mon côté, je cesse la production laitière, mais je vais investir dans une autre production et mon ami Trudeau va m'enlever une partie de la vente de mon quota que je pourrais réinvestir. Après, on se demande pourquoi il n'y a plus de gens qui veulent faire des projets d'envergure dans notre pays. Pierre, qui est quand même très concerné par ça, l'agriculture en mange une claque infernale depuis des années. C'est impressionnant, même qu'on ne fait pas nécessairement redorer ce métier-là, puis on ne prête pas assez d'intention aussi aux agriculteurs qui ont des quotas, des investissements massifs monétaires dans leur structure, dans leur infrastructure, mais que ça ne vaut pas nécessairement l'argent escompté si personne n'a le budget pour racheter ce qui vaut des millions de dollars. Non, c'est impressionnant ce qui se passe. Puis on va essayer d'avoir un petit peu plus de place dans leur CV au courant des prochains mois pour s'assurer qu'on suit le dossier comme il faut. Et mal à jupe dans vos oreilles, c'est maintenant avec Radiologie à Boulevard 102.1. Vous savez, vous pouvez commenter au 418-971-1021 ou encore sur Twitch sur le sujet ou n'importe quel autre. Merci d'avoir choisi leur CV.